Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va réagir à cette bonne nouvelle de la DARES. Les salaires réels sont dans le vert. Ils ont absorbé l'inflation. Ça n'a pas été le cas pendant 18 mois. Après le début de cette vague inflationniste en 2021, il n'y a donc pas de boucle prix salaire. L'inflation ralentit. Il y aura une baisse de taux début juin en Europe. Mais du coup, la Fed et la BCE vont diverger. Ça, c'est une vraie question. Puis on va commencer en réagissant à cette demande d'Éric Coquerel. Il ne faut plus que la France se finance sur les marchés financiers. Il appelle ça une tyrannie. Et il appelle à revenir au système monétaire d'avant 1973, avec une banque centrale qui tout simplement financerait l'État. Le même Éric Coquerel, président LFI de la Commission des Finances, vous le savez, défend des hausses d'impôts dans l'objectif de rétablissement des finances publiques. Bonjour Nathalie Janson.
Bonjour.
Bienvenue,
Nicolas.
Professeur à Noma Business School, Guillaume Dard, bonjour. Président de Mon Principe Finance, votre micro n'est pas branché visiblement, Guillaume, mais il faut peut-être prendre celui qui est là, j'ai l'impression. Ah si, c'est bon, ça y est, c'est bon.
Bonjour.
Voilà, professeur, président de Mon Principe Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Bonjour, Dany Lang.
Bonjour.
Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris Nord, membre du Manifeste pour l'Industrie. Un mail d'audit que j'ai reçu hier, Gilles. Gilles, il écoute l'émission, il est très agacé d'avoir des attaques répétées contre les retraités. Alors, il me l'a écrit hier. « Nous ne sommes pas des nantis », dit-il. Voilà, tout le monde, visiblement, affirme Gilles, je suis surpris, ne bénéficie pas de l'abattement de 10% de réduction pour frais professionnels dans sa déclaration d'impôt. Il précise qu'il y a une cotisation maladie de 1% supplémentaire pour les retraités, ce qui est vrai, on l'avait déjà dit ici. J'en sens beaucoup de réactions de retraités qui s'énervent quand on explique qu'il serait normal que le partage de la facture du redressement des comptes publics soit pour tout le monde. Bon. Et puis aussi une autre réaction que je voulais vous lire.
Juste au demeurant.
Oui, Gilles,
je suis d'accord avec Gilles.
Vous êtes d'accord avec Gilles sur le fait qu'il ne faut pas mettre les retraités...
On est venu.
Juste ça, et après on y va, et je vous donne la parole tout de suite. C'est Erza qui a réagi à la proposition de Gilles Berset de remonter la TVA dans la restauration.
Ah oui.
Voilà, Erza explique que ça fait 9 ans qu'elle est dans la restauration, ou il d'ailleurs, elle, et 9 ans qu'elle est sans salaire tous les trimestres. Voilà. Donc elle n'est pas riche et elle ne peut pas se permettre...
Non, dans la restauration, c'est des métiers extrêmement précaires, y compris pour les patrons.
On y va, Guillaume. Éric Coquerel dit « La France ne doit plus se financer sur les marchés, c'est une tyrannie, il faut que la BCE finance le pays comme avant 73. »
Oui, enfin, il dit surtout, puisque j'ai lu l'interview attentivement, il faut remonter les impôts tous azimuts.
Aussi.
Alors, ça n'est pas très nouveau pour Éric Coquerel. Ce qui serait inquiétant, c'est que on voit qu'il explique dans son interview qu'un certain nombre de députés de plusieurs partis l'écoutent. Et donc, ça m'a fait penser à la chose suivante. J'ai lu récemment, chaque pays a une espèce de devise, une phrase devise. La nôtre, on la connaît, égalité, liberté, fraternité. J'ai regardé à peu près les devises de 70 pays. Il y en a aucune où il y a le mot égalité. Souvent, on trouve prospérité, bonheur, développement. On est le seul pays. Et c'est ça qui... Et donc là, on est au cœur de votre question. C'est que ce qu'on sent dans l'interview de M. Coquerel, c'est qu'il dit des phrases du type « le CAC 40 qui ne profite qu'à certains ». C'est-à-dire qu'on est toujours un peu sur le mythe des 200 familles de 1936.
Ouais, il dit même qu'il coûte cher à la France.
Voilà, c'est ça. Alors que les grandes entreprises du CAC 40, la plupart, c'est vous qui le dites à chaque fois, Nicolas, leur résultat se fait...
À l'étranger.
Oui, bon.
D'accord. Et après, donc, 8 euros sur 10.
Il y a à la fois ce sentiment que la propriété... Au fond, c'est le refus de la propriété privée, c'est-à-dire que dire l'entreprise appartient à la collectivité. Ce qui n'est pas une exactitude. On est en Europe, il y a la liberté, on a 4 libertés fondamentales, la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Donc il faut avoir cette vision européenne. Et donc ce qui est très inquiétant dans le discours d'Éric Coquerel, c'est que, si avoir... beaucoup d'impôts étaient la recette du succès, la France serait en tête, puisque nous sommes en tête déjà de l'imposition dans le monde entier. Donc, si le couple dépenses publiques et impôts très élevés étaient la recette, ça serait, et ça n'est pas le cas. Et je rappelle au passage que le modèle américain a énormément de défauts, donc je ne vais pas le défendre, mais je faisais une étude récemment, PIB par habitant entre la zone euro et les États-Unis, il est dans quel rapport, à votre avis, Nicolas ?
Ah, ça s'est considérablement dégradé au détriment des Européens, mais j'ai plus le rapport précis
en tête. On a toujours été en retard. On a perdu énormément de terrain depuis la crise de 2008 et on reperd du terrain depuis la crise du Covid et c'est 1 à 2. C'est-à-dire que c'est à peu près 80 000 dollars par habitant aux États-Unis pour 40 000 dollars en Europe. Ça veut dire que le niveau moyen de PIB par habitant en Europe, il est égal à celui de l'État le plus pauvre des États-Unis, c'est l'Arkansas ou le Missouri.
Je précise, quand vous dites qu'on a le record d'impôts, on a le record de prélèvements obligatoires. Je précise, c'est important, c'est parce que dans les prélèvements obligatoires, on inclut l'ensemble des cotisations qui financent le modèle social. Mais on a le record mondial des prélèvements obligatoires.
Toutes les statistiques, quand vous allez sur une base de données et que vous appelez ça impôt, on vous sort tout.
Oui, hein,
donc il
n'y
a que nous qui ayons cette discussion sémantique.
Alors. On reviendra sur l'idée que ce serait la BCE et non plus les marchés qui financeraient le pays. Vous voulez réagir à ce que disait Guillaume Dard?
Alors moi je ne suis pas la France insoumise, je le précise.
Je vous ai jamais dit que vous étiez la France insoumise.
Oui, non, mais la fois dernière on m'a dit que j'étais communiste révolutionnaire.
Oui, non, mais j'avais d'ailleurs dit à Fergan que c'était complètement too much, et en plus je vous connais et je sais exactement
La parole est à la défense, parce que d'ailleurs dans les sujets aujourd'hui, vous verrez que là, effectivement, je vais défendre l'interview d'Éric Coquerel, non pas parce que c'est Éric Coquerel, mais parce que je trouve que ce qu'il dit n'est pas inintéressant. J'ai pas lu les mêmes choses, notamment sur le retour au mode de financement, que je placerai d'ailleurs avant 92 plutôt qu'avant 73. La loi de 73, Rothschild, a compliqué le financement des dépenses publiques par la voie monétaire. Mais il faut quand même rappeler que messieurs Chirac et Fourcade, en 75-76, ont financé leur relance par voie monétaire et par le circuit du Trésor. Ça, je pense fondamentalement que ce n'est pas une mauvaise idée, qu'on en est loin aujourd'hui. Oui, on va être en désaccord.
Non, mais allez-y.
Je pense fondamentalement que ce n'est pas une mauvaise idée, parce que ça nous mettrait à l'abri, dans l'absolu, des caprices des marchés financiers qui ont souvent des demandes contradictoires. Notamment, ils nous demandent plus de croissance et puis en même temps, ils demandent la baisse des dépenses publiques. Donc, c'est pas très compatible. Donc, on pourra en reparler. Mais ce mode de financement précédent, qui a été celui, je le rappelle, des pays capitalistes jusque dans les années 70, non pas des pays communistes... c'était un mode de financement qui, à mon avis, était plus...
Pays communiste, si, c'était pareil. Ouais.
Par définition.
Oui, enfin... Allez, vous ne pouvez quand même pas mettre sur le même plan les pays capitalistes pendant les 30 Glorieuses et les pays de l'Est. Dans l'interview, moi j'ai lu des choses intéressantes. J'ai lu que sur le principe, il n'était pas non plus ce monsieur pour des hausses d'impôts, mais qui préférait les hausses d'impôts aux baisses de dépenses. Oui. Or, les baisses de dépenses aujourd'hui, on ne peut pas d'un côté se plaindre que les États-Unis vont beaucoup mieux que la France alors qu'ils ont fait repartir leur économie avec des politiques budgétaires extrêmement massives. Hein. Biden, c'est plusieurs milliers de milliards qui ont été injectés dans l'économie, et notamment en matière de politique industrielle.
Mais c'est 15% de dépenses publiques en moins, les États-Unis.
Mmh. Oui, je sais bien.
Ce n'est pas le même niveau
attendez,
de prélèvement.
Ceci étant dit,
55%
si on regarde...
de dépenses pour la France, non, mais... 40% aux États-Unis.
Non, mais j'entends bien, mais si on prend la dépense publique française... Or, tout ce qui est retraite, cotisations sociales, etc., on est à peu près au même niveau que les Américains. Or, justement, on est à un moment où on en a besoin. C'est pas le moment de refaire de l'austérité, ni par la dépense publique, ni par l'impôt.
Bon, vous êtes donc favorable à l'idée qu'on agisse plus sur les recettes que sur la dépense?
Totalement, mais non, je serais pas favorable ni aux impôts, ni... aux baisses de dépenses. Ceci étant dit, les hausses d'impôts qu'il évoque, c'est le retour de la flat tax. Désolé, la flat tax, c'était Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose
exit
de bon
tax.
Sens.
L'exit tax,
que j'ai toujours défendu, et je l'ai défendu contre, justement, beaucoup de gens de gauche à l'époque.
D'accord. Éric Coquerel dit qu'il faut taxer les rachats d'actions, les superdividendes, il faut remettre l'exit tax, remonter la flat tax, cette fois-ci sur le capital, le prélèvement forfaitaire unique à 30%, et s'attaquer au crédit d'impôt recherche. Nathalie Janson, ce serait une bonne idée de refaire financer l'État par la Banque Centrale Européenne. Objectivement, ça fait rêver. Moi, le quantitative easing, si ça pouvait être un mode de fonctionnement permanent, je vous rappelle la remarque d'un commerçant à côté de chez moi qui me dit « Ah, je voulais vous poser une question, monsieur Dose. on me dit finalement que la Banque Centrale peut tout faire. Mais pourquoi je travaille et pourquoi je paye des impôts? Et elle avait un fond de clairvoyance, la question.
Non.
Alors, allez-y, Nathalie.
Non,
je comprends en tout cas pourquoi il me la posait, parce qu'il entendait dire qu'évidemment, on était à un moment où la Banque Centrale, pas de problème.
Oui, le problème, c'est que ça, effectivement, ça génère des conséquences qui ne sont pas toujours, voilà, comme Bastiat le disait bien, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on voit pas?
Oui.
Et le problème du financement, effectivement, par, qui est donc l'achat massif de dettes, provoque effectivement des distorsions à la fois sur les marchés au niveau des taux d'intérêt, mais aussi au niveau de ce qu'on finance. C'est-à-dire que si la Banque Centrale finance ça, elle détient pas d'autres titres. Bon, pour ce qui est de la monétisation de la dette, bien évidemment, moi, c'est pas quelque chose que je trouve très, très intéressant, d'autant plus que ça a quand même été à l'origine de l'inflation monétaire pour tous ces épisodes, hein, puisque c'est un moyen d'assurer la dépense publique sans passer par effectivement un verdict de marché. Ceci dit, de tout temps, enfin, au niveau historique, là, il faut savoir que la dette publique, elle a été achetée. Alors, si on prend le cas de la France, c'était fortement les banques. Mais à ce moment-là, effectivement, l'État devait plaire en termes les banques devaient avoir envie d'acheter ces titres pour qu'elles puissent être financées. Et puis ensuite, effectivement, avec le développement du marché financier, on est passé au développement du marché. Voilà, c'est l'histoire, elle est comme ça. Maintenant, la monétisation de la dette, c'est effectivement, ça a été très promu après les années 30. Donc, c'était pas du tout quelque chose d'une évidence pour beaucoup. Par contre, elle est toujours, la monétisation de la dette, c'est toujours faite pendant les épisodes de guerre, puisque là, il faut effectivement s'assurer que la dette soit financée pour pouvoir pour financer ces guerres. Et c'est souvent à ces occasions qu'on les a eues, et c'est invariablement le même résultat, c'est-à-dire une hausse de l'inflation. Donc la monétisation de la dette, c'est l'inflation.
Bon. Et alors Guillaume Dard, là-dessus, sur ce
alors,
point, mais
votre
on va
commerçant,
revenir peut-être sur les...
Oui. Je comprends très bien pourquoi...
Ah, mais moi, je comprends pourquoi il me disait ça.
Pourquoi il posait la question. Oui. Mais votre commerçant, il a un bilan. Hein, et donc, une banque centrale, c'est un bilan. Si elle achète à son passif, c'est-à-dire d'où vient l'argent, ce sont les billets émis, pour simplifier, et votre argent sur votre l'argent de tout le monde sur leur compte en banque. Et à l'actif, où est l'argent? Si la Banque Centrale met intégralement ses actifs dans des dettes qui ne correspondent à aucune production, c'est-à-dire que si au fond on dit on donne de l'argent à tout le monde, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir confiance dans la monnaie. Parce que si vous achetez des choses qui n'ont aucune valeur, on va dire le commerçant, il a son actif et puis il achète des trucs qu'il ne vendra jamais, il va faire faillite. Et la Banque Centrale ne fait pas faillite parce qu'elle peut émettre, simplement les gens se disent « Oh, mais j'ai pas envie d'avoir de la monnaie », si la monnaie, elle correspond uniquement à de la dette de gens qui ne repayeront jamais. Je vois dans vos yeux que c'est... assez complexe.
Non, mais c'est complexe, mais je vois ce que vous voulez dire.
Mais en fait, ça se passe.
Perte de confiance dans la monnaie, perte de valeur de la monnaie.
Et Nathalie l'a bien dit.
Et
première, parce qu'en fait, c'est même pas les années 30, c'est Première Guerre mondiale.
Oui,
toutes les banques centrales sont obligées de financer, qu'elles soient allemandes, françaises ou anglaises, elles vont financer les dépenses de guerre de chacun des pays. Qu'est-ce qui se passe à la sortie de la guerre? C'est là où on va avoir l'hyperinflation
allemande.
C'est là où tous les Français qui avaient des emprunts, qui avaient placé en emprunt, ont été ruinés. Le franc a dévalué dans des proportions incroyables dans les années 20, on l'a oublié. Le dollar était monté, pour simplifier, à 50 francs, alors qu'historiquement, il est à 5 francs. Donc l'Allemagne, c'était l'exemple extrême. La France a été terrible, et l'Angleterre aussi. Donc, quand la Banque centrale se met à émettre de la monnaie sans contrepartie réelle économique, sans aller jusqu'à l'exemple du Zimbabwe ou de l'Argentine, ou au Venezuela, c'est toujours ça. Et bien sûr que les banquiers centraux, ce sont un peu les garants du système, parce que ce qui est pire pour un banquier central, c'est que tout d'un coup sa monnaie vaille rien. C'est ce qu'on disait au gouverneur de la banque centrale allemande, enfin de la Reichsbank. Il dit, mais qu'est-ce qui vous a pris d'émettre des billets de 100 milliards de marques? Il dit, c'était parti, on pouvait plus rien y faire et fallait bien travailler.
Alors, est-ce que je peux réagir?
Non, je veux que vous réagissiez, parce important. Que là on explique de manière, parce que c'est complexe, mécanisme de monétisation de dette et les conséquences que ça peut avoir. L'histoire, objectivement, d'Annie Lang a été rappelée par Nathalie et encore par Guillaume à l'instant. C'est indubitable, l'effet d'une monétisation massive, au-delà du fait que ça déresponsabilise totalement la sphère politique.
Je ne suis pas pour la monétisation massive, soyons clairs. Il y a du vrai dans ce qui a été dit.
Dans ce que dit Eric Coquerel, c'est de la monétisation.
Non, c'est le circuit du trésor d'avant 73, qui fonctionnait. Hein, c'est, on parle quand même d'une période où l'économie française fonctionnait beaucoup mieux
qu'aujourd'hui. Avec des budgets en équilibre.
Oui. Avec des budgets en équilibre.
Oui,
justement, depuis qu'on a donné notre dette au marché financier,
ils ne le sont plus. Beaucoup moins de dépenses publiques.
Ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus depuis qu'on a donné notre dette au marché.
Ils ne sont plus quoi, pardon ?
Les budgets sont en déséquilibre. Depuis qu'on a refilé le financement de la dette au marché
financier. Faites le lien entre les budgets dans le rouge et le fait qu'on a changé le mode de financement du Trésor.
Je ne dis pas que c'est la seule cause.
C'est historiquement vrai.
Mais ça y contribue.
Historiquement vrai.
Le fait d'émettre, au fond, vous adorez raconter que l'agence France Trésor, elle est formidable, elle peut lever plein d'argent.
Elle l'est.
Elle l'est. Bon.
Mais est-ce que je dis le contraire ?
Bon.
Avant 86, moi j'ai assisté à la première émission d'OAT. Mmh. Pour la première fois, hop, c'était dans une petite salle à la Caisse des dépôts.
1986, vous dites ?
Ouais. Mmh. Monsieur Jaffré. Tous les banquiers viennent. Et il fallait, c'était la première adjudication à l'hollandaise de dette. Vous disiez à quel prix vous étiez prêt à acheter la dette française. Je simplifie. Il est allé derrière avec un petit Macintosh. Il a fait le prix moyen. Il a dit voilà, il y a la dette. Et c'était parti. Alors qu'auparavant, pour emprunter, comment est-ce que l'État français se finançait ? Il se finançait de deux façons. En partie par la Banque de France et de l'autre côté par des emprunts qu'il fallait placer. Vous étiez un grand emprunt en disant qui en veut en France et les banques vendaient de l'emprunt. Mais si les gens voulaient pas d'emprunt, il y avait la Banque de France, mais la Banque de France était sérieuse, elle disait non pas plus, et donc il y avait une contrainte budgétaire. Effectivement, les marchés, là Dany a un très très bon point, les marchés ont facilité, pas que pour la France, mais pour la plupart des États, le fait qu'on puisse tirer au fil de l'eau sur les marchés. Alors évidemment, c'est un prix, parce que de temps en temps, quand le marché, comme l'a dit aussi Dany, quand le marché n'en veut pas, il n'en veut pas. C'est ce qui passait pour l'Italie ou pour la Grèce. Voilà. Et qu'à chaque fois, pour l'instant, la France étant quand même parmi les grands pays, loin d'être le meilleur élève, mais pas non plus le pire, elle arrive à placer. Mais ce qu'on ne sait jamais, on l'a vu quand même en Angleterre, au Royaume-Uni, quand tout d'un coup le nouveau budget n'a pas été apprécié, tout d'un coup, ça a bloqué sur la dette.
Et pourtant dans un pays où la dette est garantie par la Banque centrale, ce qui n'est pas le cas dans la zone euro. Alors que ça devrait être le cas.
Ça
calmerait les choses. Juste un mot sur ce que vous disiez. J'ai quand même un point de désaccord. L'hyperinflation allemande, alors c'est de l'histoire, mais l'hyperinflation allemande des années 20 n'est pas liée qu'à l'émission monétaire. Vous avez aussi le facteur qu'on était dans un pays avec des salariés extrêmement puissants et un patronat extrêmement têtu. Donc là, on a une boucle prix-salaire qui s'est déclenchée en Allemagne, certes qui est partie d'une situation d'émission monétaire excessive, je ne dirais pas ça souvent, mais en Allemagne, c'est vrai, mais on s'est retrouvé avec une boucle entre les prix et les salaires, parce que quand les salariés demandaient des hausses, ils les obtenaient, et les patrons, qui ne voulaient pas rogner sur leur marge, répercutaient ça sur leur prix. Donc, les années 20, c'est aussi un patronat très puissant et très têtu, et des salariés trop puissants et trop têtus. N'oublions pas ce facteur qui a contribué à la boucle prix salaire en Allemagne dans les années 20.
L'intelligence, mais c'est passionnant ce que vous venez de raconter là, sur le mécanisme de monétisation.
Une boucle prix salaire, elle se maintient parce qu'il y a justement un excès de monnaie. Sinon, elle ne peut pas continuer. Donc, c'est tout. L'excès monétaire, c'est un prérequis pour qu'elle puisse se développer, la boucle prix salaire. Et pour justement rebondir, juste conclure sur cette histoire de marché financier, c'est pareil. En fait, les marchés financiers, la différence avec la création par la Banque centrale, enfin la monétisation par la Banque centrale, c'est qu'un marché financiers ne créent pas d'inflation. C'est des transferts d'épargne. C'est-à-dire, il y en a ceux qui ont un surplus qui achètent effectivement la dette parce que comme elle est reconnue, dans les pays où elle est bien gérée, elle est reconnue comme un actif sûr. Eh bien, il y a des pays qui ont une grande appétence. Il y a des peuples qui ont une grande appétence pour leur dette publique parce qu'ils aiment les actifs sûrs. Et puis, on a d'autres qui vont diversifier leur portefeuille. Donc, faut quand même voir aussi on peut pas non plus dire que c'est, effectivement, ça, un accès au marché financier agrandit le nombre possible de gens qui vont détenir votre dette. Mais c'est tout. Ça ne génère pas d'inflation comme une banque centrale avec la monétisation.
Nicolas, vous êtes d'accord sur le fait que ça génère ou pas de l'inflation? Voilà.
Oui, Nicolas, vous avez un baromètre pour aller dans le sens.
30 après, on passe.
Vous avez un baromètre pour aller dans le sens de Nathalie. Comment est-ce qu'on peut mesurer si la dette, elle est appréciée ? Alors, d'abord, elle est appréciée une dette vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que la dette allemande, c'est une dette qui a un taux d'intérêt plus bas parce que on pense que dans la zone euro, c'est la plus sûre. Il y en a quelques-unes, mais plus mineures. Et puis après, vous arrivez à la France, il y a à peu près 50 centimes de différence. Et puis après, vous arrivez, je vais vite, à l'Italie, où il y a 101%, ça vous rapporte 1% de plus, pour simplifier. Puis la dette grecque, d'ailleurs, qui a bien remonté. C'est-à-dire que le programme grec d'austérité était très, très dur, mais enfin...
Je crois que les Grecs sont repartis devant l'Italie, d'ailleurs.
Devant l'Italie, c'est intéressant. Bon. Et puis... Ça, c'est en relatif l'un par l'autre. Qu'est-ce qui peut vous dire ? Est-ce que la dette, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose ? Vous avez un baromètre formidable, traditionnel, depuis toujours, qui s'appelle l'or. Et donc, si l'or est quasiment à son plus haut, ça veut bien dire qu'il y a une méfiance vis-à-vis de l'ensemble de la dette d'État.
Souveraine.
Ce serait pire s'il n'y avait pas un certain nombre de réglementations qui obligent des investisseurs institutionnels à en avoir massivement. Ils n'ont pas le choix. Il y a un certain nombre de réglementations qu'on fait. Et vous avez un deuxième baromètre maintenant, ça ferait plaisir à Nathalie, qui est plus subtil parce qu'il est quand même, on n'a pas une expérience si longue pour savoir si ça marchera et je ne suis pas en train de dire d'acheter du bitcoin. Mais la hausse du bitcoin, comme vous pourriez aussi acheter des timbres-poste des actifs réels. C'est-à-dire que vous pouvez soit prendre des actifs monétaires obligataires, soit prendre des actifs réels. En tout cas, restons sur l'or. Et le Bitcoin est un deuxième baromètre plus dangereux, mais enfin qui existe aussi, qui montre qu'il y a une défiance vis-à-vis de la dette, parce qu'on se dit on va refinancer, la monnaie va se dévaluer.
Dans un instant, vous réagissez sur... Le fait de savoir quand même si l'inflation, c'est pas le bout de l'histoire d'une monétisation. Mais merci en tout cas pour la clarté de vos explications. Juste après, la boucle prix salaire, a priori, ne se confirme pas. L'inflation ralentit, la BCE va baisser ses taux, mais la Fed ne le fera pas au même moment. La divergence des deux grandes banques centrales, est-ce que c'est un vrai sujet sur lequel il faut s'inquiéter ? Je vous poserai la question, à tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG, et Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris-Nord et membre du Manifeste pour l'Industrie. Passionnante explication sur l'effet des monétisations des dettes par la Banque Centrale. Réaction à la phrase d'Éric Coquerel. Pour conclure, Dany Lang, par rapport à ce qui a été dit, je vais le faire court, mais si vous jouez à ce genre de jeu, vous finissez par vous brûler les ailes parce que vous laminez votre monnaie et ça se finit en hyperinflation.
Pas nécessairement.
C'est ce que vous
voyez. Et c'est là qu'il y a des points de désaccord. Le financement par les marchés financiers a un gros défaut de la dette publique. Les marchés financiers, moi, je n'ai jamais été convaincu qu'ils sont très rationnels. Et je disais avant 2008 déjà que prêter au même taux aux Grecs et aux Allemands est une absurdité. De la même manière, avoir 25% d'écart entre le taux auquel on prête aux Grecs et le taux auquel on prête aux Allemands après 2009, c'était une absurdité aussi. Les marchés financiers...
Tout est absurde, en fait.
Les marchés financiers ont une approximation...
permanente, c'est un tâtonnement.
Le marché ils vous disent il n'y a pas assez de croissance, donc je n'ai pas confiance. Et franchement, il y a une manière de résoudre ça dans la zone euro, qui ne résout pas tout, puisque l'exemple de l'Angleterre, c'est revenir, comme l'avait d'ailleurs proposé Nicolas Sarkozy et Alain Juppé à l'époque, revenir sur l'article 103 et l'article 104 du traité de Maastricht qui interdisent à la Banque centrale de financer la dette publique directement. Et d'ailleurs,
elle a contourné le truc,
mais ça lui a coûté très cher en passant par les banques privées, en disant banque privée, vous achetez de la dette publique, et derrière, je vous la rachète avec un markup. Ça a coûté très cher. Donc, on le fait directement,
vous m'avez pas répondu sur le fait que la fin de l'histoire, c'est l'inflation.
Non, souvenez-vous, Nicolas, quand les politiques non conventionnelles ont commencé en 2008, moi j'entendais notamment un bouche d'Agnès Verdier-Molinier qu'on allait avoir une inflation délirante. J'avais dit non, la théorie quantitative de la monnaie ne fonctionne que sous certaines conditions et la vitesse de circulation baisse. Donc si
on l'a eu dans l'immobilier, l'inflation.
Oui, Mais ça, c'est très indirect, et ça, je le reconnais.
Les salaires réels, la DARES nous indique que les salaires réels, ça y est, désormais réels, donc en incluant l'inflation, sont positifs après 8 trimestres qui ont suivi le décollage de l'inflation où ils étaient, salaires réels, négatifs. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais c'est une très bonne nouvelle.
Bon, pour les salariés, oui.
Oui. Non, mais voilà, je vais commencer, après je vais laisser la parole.
Nathalie commence parce qu'elle a un déficit de temps de parole.
Exactement.
Et après, oui, il s'accorde la parole. Voilà. Bonne ou mauvaise nouvelle, je me suis mis un peu de manière rhétorique en opposition à Jean-Marc Daniel sur cette question ce matin, mais qu'est-ce que vous en dites?
De toute façon, qu'il y ait un salaire réel qui soit positif aujourd'hui, tant mieux, effectivement. Mais pas tant mieux. Enfin, je n'ai pas écouté Jean-Marc Daniel, mais je peux supposer, parce que c'est pas une bonne nouvelle quand vous savez que la productivité n'a pas augmenté. Voilà. Donc ce n'est pas en ligne. Oui. Donc c'est simplement qu'effectivement, on est dans un marché du travail où, effectivement, les salariés, à juste titre, ceux qui sont en position d'emploi, eh bien, par rapport aux baisses de pouvoir d'achat qu'ils ont subies, ont revendiqué des hausses de salaire. Il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu un ralentissement de l'inflation, ce qui fait que ces hausses demandées se transforment en hausses réelles. Mais honnêtement, par rapport à ce qu'il va venir, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il a raison, puisqu'effectivement, on a un déphasage avec la productivité. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas une bonne nouvelle.
Alors, c'est très vrai.
C'est bien au niveau individuel.
Guillaume et Dany Lang, après, on avance sur
BCE. Pour aller dans le même sens. Individuellement, un salarié, c'est son droit légitime à chercher à être augmenté. Et c'est logique et c'est normal. Donc, on ne va pas reprocher aux salariés de demander d'être mieux payés. Ceci étant dit, comme l'a dit Nathalie et Jean-Marc, collectivement, ce serait une extrêmement bonne nouvelle si la France était en excédent commercial massif, avec une situation forte, avec un bon marché du travail, c'est-à-dire avec des gens qui vont, enfin, qui n'aient pas des tas de recherches de jobs offerts par les entreprises qui ne trouvent pas leur contrepartie, et que la productivité monte. Et à ce moment-là, ce serait formidable.
Si on était en excédent commercial, avec une productivité dans le vert et avec un marché du travail proche du plein emploi, évidemment.
Ce serait génial et formidable.
Oui, je suis d'accord, c'est totalement indiscutable.
Ce qui est ennuyeux, c'est qu'on comprend qu'il y a plein d'effets qui arrivent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est le en même temps, du quoi qu'il en coûte, de votre boucher qui voulait être financé par la Banque Centrale, du télétravail qui n'est pas faisable par tout le monde, mais pour un certain nombre de gens, ça a quand même changé le rythme, et tout ça, et j'allais dire des écrans, parce que quand vous regardez les gens, et on se regarde tous, moi le premier, on passe quand même beaucoup de temps à faire autre chose que travailler en regardant... Donc on a une baisse de la productivité, on a un pays qui est en déficit commercial, et donc tant mieux qu'il y ait une hausse de salaire pour les gens qui l'ont perçu, mais on sait très bien que ça durera moins longtemps que les impôts. C'est-à-dire qu'il y aura un effet de rattrapage. Si la conjoncture est
rattrapage
mauvaise...
de quoi, pardon?
Parce que si la conjoncture est mauvaise... Si les entreprises gagnent beaucoup d'argent, elles peuvent le payer, mais enfin...
Sinon, elles vont réduire les effectifs.
Je ne vais pas vous raconter qu'il y a un débat là sur qu'est-ce qui va se passer pour les constructeurs d'automobiles en Europe, hein. Est-ce qu'ils vont laisser ça... D'ailleurs, ça a été dit, il n'y a plus que 10% des vous l'avez dit dans l'émission d'hier, là, 10% des voitures vendues en France qui se sont construites en France, à peu près.
Donc, électrique.
Et donc, vous avez une éviction... Électrique, c'est uniquement électrique.
Vous avez donné un chiffre. C'est pas moi qui l'ai donné, je l'avais pas en tête.
Bon, ce qu'on comprend, c'est que l'appareil de production, alors je vais dire en simplifiant, si on pleure tout le temps à juste titre sur la désindustrialisation, tout ça n'est pas par hasard. Donc... la question, on sait que si on se met à un positionnement salarial non compétitif dans la guerre économique, ça se paye et ça se traduit à un moment par une augmentation de chômage.
Bon, dit autrement, effectivement.
Ou des faillites d'entreprises.
Quand vous avez du pouvoir d'achat et que ce pouvoir d'achat sert massivement à acheter des produits importés, évidemment, c'est le stigmate du pays qui consomme trop, finalement, et qui ne produit pas assez. Alors après, si on veut être très provocateur, on peut dire qu'on a trop de pouvoir d'achat en France.
Je peux réagir. Bon,
pas vrai individuellement.
Oui, ce qui n'est pas vrai. Dany Lang, allez-y,
Alors, je vais pour commencer, je partage l'idée que si les hausses de salaire sont supérieures en termes réels aux gains de productivité, c'est pas une bonne nouvelle.
J'ai pas trouvé un économiste pour me dire le contraire.
Potentiellement, ça peut être inflationniste. On n'est pas au niveau où c'est inflationniste, mais potentiellement, ça peut l'être. Ceci étant dit, la parole étant à la défense. Je vais quand même rappeler qu'on a un tassement des salaires français autour du SMIC.
Donc, ça, c'est un sujet.
Donc, c'est un vrai sujet.
Et le SMIC est indexé.
C'est un vrai sujet. Le SMIC est indexé, mais les salaires au voisinage du SMIC ne le sont pas.
Ils se font rattraper.
Or, autrefois, on avait l'effet de halo, c'est-à-dire que quand le SMIC augmentait, les salaires au voisinage augmentaient. Là, on ne l'a plus, raison pour laquelle, personnellement, j'ai proposé une réindexation des salaires à voisinage du SMIC jusqu'à 1,6, 1,8 fois le SMIC. Et ça, je sais qu'on va être en désaccord là-dessus.
Je pense qu'on peut se faire en désaccord.
Mais au demeurant, le problème qui s'est posé ces derniers mois, l'inflation est très bien mesurée par l'INSEE, mais c'est une moyenne pondérée, il faut pas l'oublier. Or, l'inflation qu'on a vécue, c'est 15% sur les produits alimentaires. Extrêmement compliqué, même si elle s'arrête. Ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. C'est extrêmement compliqué pour les ménages qui sont au SMIC ou un peu au-dessus. Donc, je pense que dans l'absolu, cette hausse des salaires est une bonne nouvelle. Ce serait encore une meilleure nouvelle si on avait des gains de productivité. L'an dernier, ils ont été de 0,4%, ce qui est ridicule. Donc, ce serait encore une meilleure nouvelle si on avait des gains de productivité au même niveau. Mais je pense, personnellement, que si la hausse des salaires pouvait se concentrer sur les gens qui sont au SMIC, ce serait une bonne nouvelle. Il ne faut pas oublier que dans la fonction publique, les hausses n'ont pas été de ce niveau. Et c'est très compliqué pour les agents de catégorie C et de catégorie B, dont on ne parle jamais.
J'entends. Bon,
mais on va être d'accord.
Guillaume Dard.
Mais paradoxalement, on va être d'accord avec Denis, mais pas complètement dans la deuxième partie que je vais évoquer. Ça fait 15 ans, ici, Nicolas, que je vous dis, le problème de la France, c'est que le salaire net perçu trop faible et le coût pour l'employeur est trop fort et non compétitif. Et donc, ça nous ramène au financement global de notre modèle social.
Oui.
Et qu'on ne me parle pas là, immédiatement qu'à ce moment-là, il faut faire l'erreur à la limite de Nicolas Sarkozy qu'on appelait l'impôt sur le capital, qui est l'impôt sur l'épargne, parce que le PFU, ça a juste...
forfaitaire unique.
On a juste ramené la fiscalité de l'épargne à un niveau plus proche de ceux de nos trois grands voisins, Allemagne, Italie, Espagne, mais encore 8 à 5 points d'impôts en plus. C'est-à-dire que là-bas, c'est entre 22 et 26%. Donc nous, avec le prélèvement forfaitaire unique, on est à 30%. Donc ça n'est pas là où on va trouver la solution. On sait très bien, et puis on repart là dans l'autre débat, c'est on a un coût de fonctionnement du site France qui demande 55% de dépenses publiques. Et là, on est un exemple...
Mais Guillaume, vous savez bien...
Un exemple tellement différent du reste du monde, sans satisfaction complète, puisqu'on n'a ni une forte croissance, ni une satisfaction parfaite sur les services publics, même des inquiétudes sur un centre de services publics. Et donc, on a un problème de business model, c'est-à-dire le pays à part, égalité, liberté, fraternité, et pas prospérité.
Les deux chiffres qui, je trouve, vont être très révélateurs, c'est le classement PISA, c'est pathétique, le classement PISA 26e, et le classement
vous a dit qu'il y a un autre classement, on s'est un peu amélioré.
Et la mortalité prénatale, c'est dramatique. On est 22e mondial en mortalité prénatale.
Par contre, on peut se féliciter d'avoir le pourcentage de centenaires le plus élevé, en Europe, et notamment chez les femmes, puisque nous avons un record et beaucoup de femmes qui atteignent 110 ans.
Vous savez bien.
Après, je veux absolument faire
que juste pour rappeler, parce que Guillaume le sait très bien, la dépense publique sur PIB, c'est une comparaison. Ça ne veut pas dire que 50% des ressources du pays vont dans la dépense publique. La dépense privée représente à peu près 250% du PIB et personne ne crie au scandale. C'est un ordre de comparaison. C'est vrai qu'on est au-dessus des autres pays,
mais
c'est pas à cause des écoles, des universités, des pompiers ou des hôpitaux qui vont très mal. C'est parce que on a fait d'autres choix en matière de financement de la santé et de la retraite qui peuvent être dans le débat, mais c'est de là et vous le savez, Nicolas, on en a souvent discuté, c'est de le... Alors, si on fait d'autres choix, moi, je suis pas convaincu, par exemple, qu'aux États-Unis, leur système de santé est désirable. C'est le plus cher au monde et c'est le moins efficace.
Non, il est pas désirable.
Voilà, moins efficace, j'irais peut-être pas jusque là. Il est moins efficace, c'est tout. Non, mais bon, il est pas moins efficace. Les traitements aux pointes, ils sont pas.
Non, mais je dis pas qu'il est mauvais. Mais enfin, objectif.
Pour les pauvres, il est mauvais. Oui, désolé, il est très mauvais.
On a tous.
Quand vous coupez un doigt, quand vous devez deux doigts, vous devez choisir entre vos deux doigts.
Je ne vais pas, voilà, mais je pense qu'en France, il peut être aussi très inégalitaire parce que. Vous savez très bien que donc c'est pour ça que je ne suis pas convaincue du tout. Aux États-Unis, il est très en pointe. Je pense qu'en avance médicale avec les traitements, il y a des traitements beaucoup plus efficaces que chez nous qu'on n'arrive pas à avoir. Par contre, effectivement, on a une masse moyenne qui est plus grande, mais un pauvre aux États-Unis, effectivement, est peut-être plus maltraité. Mais en France, il n'en demeure pas moins. Quand vous êtes pauvre, vous avez un moindre accès à des traitements de pointe.
On va pas ouvrir une comparaison, mais en tout cas, on a tous des potes qui, lors d'un gros pépin, rentre en France pour se faire soigner.
Oui,
c'est quand même
tout à fait. Tout à fait.
Moi, je l'ai vécu.
Et quand j'étais en Irlande, je me faisais soigner en France. Je le dis clairement.
Il n'y a pas de boucle prix-salaire. C'est même pas la peine, je crois, de rouvrir le.
Je vous l'avais bien dit.
Oui, vous l'aviez dit. Non, mais
une fois que je peux dire ça.
Bon, parce que là, en fait, le chiffre.
Ce serait un trop gros débat.
C'est un trop gros débat. Parce que c'est peut-être plus compliqué que ça, surtout avec une productivité en berne.
Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai.
Soyez prudents. Non, non, pas non plus des hausses de salaire de
15%.
Non, mais je dis ça parce que l'inflation des salaires et qu'on voit que les salaires réels sont positifs, mais la hausse des salaires ralentit. On peut quand même considérer qu'on a les ingrédients de quelque chose de rassurant.
Mais c'est normal, c'est normal.
Nathalie. Vous avez vu quelques... Alors, vous voulez vraiment provoquer parce
Non, je veux pas.
Vous n'avez pas entendu, là, pendant les Jeux Olympiques, là, il n'y a pas quelques hausses de salaires. Alors, c'est des primes.
Oui.
Mais c'est quoi?
Oui, bon, c'est des primes. Les primes, ça ne dure pas. C'est pas ça qui va faire une tendance.
Il y a une demande, en tout cas.
Bon, enfin, disons que... Il y a plus de raisons de penser que ça n'arrivera pas que de penser que ça nous pend au nez.
Ça, je vous l'avais bien dit.
Nathalie,
avec
la Fed,
5 millions de chômeurs.
Cette question est complexe. Je l'ai posée à Jean-Marc Danier. Il m'a répondu, ça ne devrait pas provoquer un tsunami particulier. En attendant, on se disait, la Fed va donner des signaux, je baisse mes taux, la BCE suivra. Et on se disait, elle va suivre avec du retard, comme elle a suivi avec du retard pour la hausse. C'est pas ce qui va se passer. La BCE va commencer en juin. Et la Réserve fédérale américaine, tout le monde se demande si elle va vraiment s'y mettre. Ou pas.
Oh bah oui.
Est-ce que le fait d'avoir des politiques monétaires des deux principales banques centrales, Fed, BCE, c'est quand même les deux poids lourds, on peut mettre la Banque d'Angleterre et la BOJ aussi, est-ce que c'est un problème que les politiques monétaires divergent?
Et la Banque de Chine.
On dira un mot de Xi Jinping.
Alors, est-ce que c'est un problème ça dépend de la raison pour laquelle elles ne font pas les choses en même temps, déjà, quand même, fondamentalement. Et la deuxième chose, c'est que en fait, l'impact, ce sera surtout au niveau du taux de change.
C'est ça.
Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, la divergence de taux d'intérêt, c'est là où elle pèsera. Puisque, en effet, si vous avez un dollar qui continue à avoir une rémunération élevée avec un euro qui va effectivement voir sa rémunération baisser, eh bien, c'est là où on peut avoir des tensions sur le taux de change.
Ça veut dire que le dollar est beaucoup plus fort que l'euro.
Il va continuer. Alors, déjà qu'il est fort, de toute façon, on n'est déjà pas à un niveau... on est quand même... pas un niveau très élevé par rapport à l'euro. Et là, on le voit d'ailleurs, puisque vous mentionnez aussi les autres banques centrales, notamment la Chine, on voit que la Chine, elle, c'est un problème dont elle ne parle pas beaucoup, parce qu'elle est un peu embêtée aux entournures, parce qu'effectivement, il y a des tensions très fortes à la baisse sur le yuan. Donc, on a bien entendu parler du yen, mais beaucoup moins du yuan. Mais de la même façon, et si... comme ils sont déjà en position de négociation difficile vis-à-vis d'autres pays, ils se disent que si en plus ils laissent filer en bas leur monnaie, là, ça va être pris comme une provocation. Donc si on revient à l'euro, en fait, ça va être ça le problème pour la Banque Centrale Européenne. Après, bien évidemment, on peut comprendre les divergences, même si moi, j'avoue que je reste un peu sur ma faim. J'aurais préféré en fait que la Banque Centrale Européenne aussi accentue un peu plus la réduction de son bilan, ce qui de toute façon se matérialise par des taux d'intérêt qui vont plutôt aller à la hausse, mais pas les mêmes, on va dire. Néanmoins, effectivement, la divergence, elle va se situer là, puisqu'effectivement, quand vous regardez un petit peu historiquement, en plus ce matin, comme je le rapportais, il y avait La même question se pose à la Banque de Suède qui envisage sérieusement de baisser ses taux également là. Et il y avait un graphique où effectivement on montrait les décisions, en fait, comment les taux avaient augmenté depuis la crise de 2008 et effectivement même avant. On voit bien que à chaque fois c'est la Fed qui donne le là et les autres qui suivent. Objectivement, aux États-Unis, on est dans une situation où même certains parlaient de hausse des taux. Donc on est vraiment dans une situation différente. Donc on peut comprendre que l'Europe, compte tenu de sa situation, n'a pas forcément besoin, enfin n'est pas du tout dans la même dynamique. Moi, j'aurais pas été forcément sur la baisse des taux, j'aurais juste effectivement continué à baisser mon bilan.
Nordine m'écrit, salut Nico, j'ai un pote à New York qui a payé 20 000 dollars après s'être cassé le bras.
Oui, mais
Guillaume, Dany, sur la divergence faite.
Le cycle économique, comme l'a dit Nathalie, aux États-Unis est assez différent de celui de l'Europe. C'est-à-dire que ça a été surprenant. Et à moitié, parce que, comme l'a dit aussi Dany, il y a eu une relance budgétaire quand même très forte l'année dernière.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Parce que le cycle économique américain, il est toujours très drivé, dirigé par les élections. Et comme les élections ont lieu tous les 4 ans, dès l'année précédant l'année des élections, le président américain, s'il veut se faire réélire, il relance à fond. Donc Biden et l'administration démocrate a relancé à fond en 2023 et continue en 2024 à être très
sûr. Elle le fait depuis le départ, l'administration Biden. Hein.
Alors, raison de plus.
Mais c'est une quasi-requête de surchauffe économique, d'ailleurs.
Oui, alors, complètement.
Deuxièmement, le patron de la Fed, il est généralement poussé par l'administration au pouvoir pour avoir une politique de taux très bas. Mais comme il voit bien que la situation, les États-Unis n'ont pas que des qualités, ont quand même un déficit budgétaire énorme, il se dit, je ne peux pas faire une politique monétaire trop souple, alors qu'il y a un énorme déficit budgétaire, que même s'il n'y a pas, même si l'inflation rebaisse, les prix aux États-Unis sont hors de prix. Vous venez de citer les 20 000 dollars là pour mais c'est la même chose pour les locations. Donc les Américains souffrent de l'inflation. Et donc la mission quand même numéro un d'un gouverneur de banque centrale, c'est que la monnaie conserve sa valeur et donc qu'il n'y ait pas trop d'inflation. Et donc il est très très prudent. Il a été comme tout le monde surpris par le degré de la croissance américaine et donc il n'a pas envie à ce stade de baisser les taux d'intérêt. Oui. Et de l'autre côté, Nathalie a évoqué un sujet important qui est la taille du bilan. Il par contre donné un petit message d'assouplissement. Et quant à la taille du bilan que vous l'ayez en tête, c'est assez simple. La Banque Centrale Européenne, c'est 50% du PIB européen, la taille du bilan. Oui. Aux États-Unis, ça n'est que 35%. Oui. C'est-à-dire que nous, en Europe, on est dans une situation extrêmement quand même agressive, ce qui fait que les faucons de la Banque Centrale Européenne, ils disent, écoutez, on devait réduire le bilan plus qu'on ne l'a fait, on ne l'a pas beaucoup fait, donc on n'a pas tellement envie de baisser les taux trop rapidement. Donc, le consensus autour du gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Gallo, qui est un peu le pif, Dominique Villeroy de Gallo, qui est le pif, François Villeroy de Gallo, vous devriez me corriger.
Pardon, je pensais à la question qui me venait après, mais allez-y. François Villeroy de Gallo, oui.
Insiste beaucoup, on est le barre essente, pour que cette baisse des taux ait lieu, comme il est influent. Mais ça n'est pas non plus absolument certain.
Non.
Il ne faut pas qu'on ait un mauvais chiffre d'inflation.
J'entends. Moi,
votre question sur la différence, elle est marginale.
S'il vous plaît.
Alors, Dany Lang.
Alors, j'adhère à beaucoup de choses qui ont été dites.
Mais encore une fois, ce que dit Nathalie est indubitable. Si on baisse les taux, automatiquement, l'euro est moins attractif.
Oui, alors là. J'adhère à beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur les conjonctures qui ne sont pas les mêmes. Et notamment aux États-Unis, ça va bien en partie grâce à l'administration Biden. Mais c'est vrai qu'ils ont un problème d'inflation qui agace beaucoup de gens et qui pourrait d'ailleurs expliquer que pour la première fois depuis depuis que je me souvienne et depuis très longtemps, un président américain qui a ramené l'économie proche du plein emploi pourrait ne pas être réélu. Il y a d'autres facteurs, mais généralement, c'est l'économie qui explique le résultat des élections américaines. Là, Biden, il a d'ailleurs tenu certaines promesses de Trump en matière de réindustrialisation. Trump en parlait beaucoup, lui, il l'a fait. Mais il pourrait ne pas être élu, notamment en matière économique, à cause de l'inflation, qui est trop importante. Et les hausses des taux aux États-Unis ne permettent pas de maîtriser l'inflation. J'ai toujours dit que les hausses de taux actuelles ne permettront pas de maîtriser l'inflation parce que ça n'est pas l'outil adéquat pour l'inflation actuelle. Ça, ça fait longtemps que je le dis, et on le voit, les États-Unis en sont l'illustration. Ceci étant dit, effectivement, les conjonctures économiques sont très différentes aux États-Unis, ça va bien, et en Europe, où ça va mal. Notamment, la Belgique, les Pays-Bas sont aujourd'hui en déflation. En France, on a un indicateur qui m'inquiète beaucoup, et qui devrait, à mon avis, beaucoup inquiéter aussi les commentateurs, c'est l'état de l'immobilier. L'immobilier va mal. Il faut, on a besoin de construction, il y a un besoin de logement, et le secteur du bâtiment ne va pas bien. Donc, il est urgent en Europe, de baisser ses taux vite. C'est beaucoup plus urgent que le bilan de la Banque centrale. C'est là où on aura un désaccord. Et si l'euro venait à se déprécier un peu par rapport au dollar, bah, tant pis, ou même tant mieux pour certaines entreprises.
Non, ça
leur facilitera la vie.
Qu'est-ce que vous dites
J'aurais juste un petit point. Je pense que sur l'immobilier, on ferait mieux de déréglementer le marché immobilier.
À la Rabier Milley.
Voilà, exactement. Je pense qu'on obtiendrait sans baisser les taux, sans faire quoi que ce soit,
ça irait miraculeusement beaucoup mieux. Voilà.
On est en désaccord, c'est pas grave.
Non, on va dire un mot de la Chine. Parce que, oui, c'est vrai que allez voir dans le on développera un jour ce qui a été décidé en Argentine la hussarde.
C'est quand même impressionnant.
Sur la location.
C'est impressionnant la baisse des prix.
Tu lâches la bride libères tout, et c'est vrai que le marché de la location a retrouvé une fluidité qu'il n'avait pas
du tout.
Xi Jinping, je faisais la chronique hier, je marquais cognac 1, voiture 0, c'était vraiment purement l'angle éco. Il a passé 48 heures en France avant d'aller chez des amis serbes et hongrois. Comment est-ce que vous en tirez comme conclusion, Guillaume ?
Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si... Enfin, d'ailleurs, il faut simplement se souvenir qu'il y a une initiative de la route de la soie qui s'appelle 16+1, c'est-à-dire la Chine, et que ces deux pays font partie de l'initiative. C'est-à-dire qu'il va voir les gens du club qu'il a organisé, donc est-ce qu'on peut en faire toutes les conjectures possibles ? Mais enfin, c'est assez logique.
Ça a été acerbe avec le choix de la tour.
C'est assez logique. Donc, arriver à décrypter la pensée de l'empereur de Chine, ce serait extrêmement présomptueux. Je crois que ce qui compte, c'est le message qui soit venu, qu'il ait parlé. Alors, il a toujours un sourire très cryptique, donc c'est très difficile de penser. Mais il a donné quand même. Il a quand même donné un message assez sympathique pour l'histoire du cognac, parce que c'était quand même un point fort qui était une façon de montrer. Ça aurait pas été probablement que le cognac qui aurait été tombé. Mais dire attention. J'ai aussi, si vous voulez vraiment m'empêcher de la Chine d'exporter des voitures chinoises, enfin des voitures électriques, on a quand même des armes de rétorsion qui sont fortes. Et là, il parle de, ça aurait pu être d'autres produits pour d'autres pays européens. Donc, il a envoyé plutôt un message positif. Ceci étant dit, quand on va en Chine ou qu'on parle avec des Chinois, ce qu'ils vous expliquent, ils disent. Ce que vous menez pour la transition climatique, on le comprend, on trouve ça très bien. Nous-mêmes, on est le pays qui à la fois pollue le plus, ça, ils ne le disent pas, par le mine de charbon, mais le pays qui investit le plus dans la transition climatique. Et donc, ce que vous avez décidé sur l'automobile, vous l'avez fait de façon un peu précipitée. C'est-à-dire que, moi, chez Montpensier, on est très en faveur de cette transition climatique. Mais Le moteur thermique, c'était la force de l'Europe. Oui. C'est-à-dire que les Chinois n'auraient jamais été capables de remplacer.
Il n'y a aucun doute.
En changeant, c'est un peu comme l'histoire Nokia-Apple. C'est-à-dire que Nokia, ils faisaient des téléphones, ils n'ont pas suivi les smartphones. Et donc, on a un basculement industriel. La voiture électrique, c'est un autre processus. Et là, les Chinois, qui étaient très en retard sur la construction d'une voiture thermique...
Ont beaucoup d'avance sur l'électrique.
Beaucoup d'avance ont instantanément pris le nouveau train en marche. Et donc, c'est l'Europe se retrouve face à ces contradictions, une volonté très légitime d'aborder la transition climatique, mais parallèlement, si vous cassez l'automobile, notamment pour l'Allemagne, derrière l'automobile, il y a la chimie, il y a la mécanique, il y a toute l'industrie. Donc, c'est l'effondrement de l'industrie. Et donc, les Chinois, j'imagine, ils ont dit, écoutez, c'est vous qui avez changé la donne, et il se trouve que nous, on a les produits qui correspondent à votre demande.
Il y a aussi le fait qu'il y a une ultra-subvention de l'industrie l'industrie automobile
mais
par le gouvernement.
J'en sais rien, ça.
Ah, vous en savez rien,
mais c'est... Mais comment vous le savez?
Je le sais.
À part que vous l'avez lu trois fois dans un...
Vous pensez qu'il n'y a pas...
Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je ne vois pas très...
Il m'est arrivé de rencontrer quand même des chefs d'entreprise qui ont des aventures chinoises et qui vous disent qu'on n'est pas traité à armes égales.
Mais les subventions seraient intéressantes de les savoir.
C'est l'objet des subventions pour les usines
de batteries et tout ça. Donc
c'est l'objet
du sujet.
C'est l'objet de l'enquête, que ce soit des subventions directes ou indirectes.
C'est la force de leur manufacture.
Bon. C'est le sujet de l'enquête qui a été lancée par Bruxelles justement sur la filière.
On verra le résultat. Oui, c'est aussi parce que les modèles électriques c'est plus simple qu'un moteur.
Oui.
Donc effectivement, c'est comme l'a expliqué. En fait, malheureusement, c'est du Lego. Alors il y en a qui disent que justement leur Lego est pas terrible. C'est-à-dire que si en Europe quelques-uns sont bons sur l'électrique, ils pourraient effectivement reprendre le lead en faisant des moteurs électriques plus ingénieux, parce qu'effectivement quand la batterie, enfin quand c'est fini, enfin tout, on est obligé de tout mettre à la casse au lieu de pouvoir réparer par module.
Il faut pas écrire l'histoire.
Mais c'est pour ça que moi je trouve que c'est toujours une vision extrêmement pessimiste, et moi je pense qu'en fait il faut le prendre comme effectivement une rupture. Enfin on peut pas le nier. Nous on a décidé de faire électriciser et il faut donc le prendre comme une opportunité de trouver des nouvelles choses pour rebondir.
Je suis d'accord que la messe n'est pas dite. À un moment, on pensait que le Japon s'était
exactement, fini,
allait dominer le monde.
Et pas du tout. Bon. C'est plus compliqué.
On s'arrête là. Bon, j'avais plein de choses encore pour ce sujet.
Sur la Chine, juste, il faut.
Mais on a fini.
Arrêter de les laisser copier gratos nos brevets. Donc,
alors ça, c'est
le fond du problème.
Là, c'est
le fond du problème.
L'industrie de la cosmétique.
Le brevet est un monopole.
L'industrie de la cosmétique espérait obtenir une victoire, justement, sur les exigences réglementaires imposées par la Chine, qu'elle considère aujourd'hui comme du piratage.
Évidemment, c'est du piratage. C'est comme ça qu'ils ont rattrapé.
On ne peut pas aller plus loin. Merci d'avoir pris du temps le 8 mai pour venir me retrouver en direct.
De toute façon,
toujours avec grand plaisir,
Nicolas.
Le fonds
des fonctionnaires que j'ai.
Bonne journée aux auditeurs et spectateurs.
Bon, les fonctionnaires quoi?
Moi, je travaille.
On a fini. Merci beaucoup donc d'intelligence en Guillaume Dard, Danny Lang pour la précision de vos explications sur tous ces mécanismes de financement des États. On se retrouve demain à nouveau en direct. Ce sera le 9 mai, 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.